Réplique, l'adieu à l'histoire avec Régis Debray. Sartre, au sortir de la guerre, apprenait l'engagement de l'écrivain. Les mots, pensait-il, sont des armes, des pistolets chargés. Et puis, il a peu à peu déchanté. Polygraphe présent sur tous les fronts, il a progressivement pris acte de son impuissance au regard de l'injustice du monde et des vrais combats menés pour y mettre fin. Sous l'œil sarcastique de l'histoire, sa plume lui est apparue légère, irrémédiablement légère. Il a donc écrit les mots « Adieu littéraire à la littérature ». Nous étions en 1964. 50 ans plus tard, c'est un étourdissant « Adieu à l'histoire » que, sous le titre « Madame H. » vient d'écrire, avec une alacrité toute sartrienne, Régis Debray. « Nous avons, dit-il, abandonné l'économie du salut en cherchant notre salut dans l'économie ». Mine de rien et sans prévenir, l'ère chrétienne a pris fin avec le remplacement par la cité de la réussite des grands récits de l'émancipation. Inutile donc de courir plus longtemps après Madame H, elle a tiré sa révérence. L'analyse de Régis Debray est brillante et convaincante, mais l'atroce événement que nous venons de vivre m'incite à lui poser d'emblée cette question. Est-ce bien l'histoire qui nous a quittés ou la chimère que nous adorions sous ce nom? Si les veufs de Madame H sont fauchés aujourd'hui sur la terrasse de la Belle Équipe, de la Bonne Bière ou du Carillon, cela ne signifie-t-il pas que l'histoire avec une grande H fait son retour dans un pays et sur un continent qui se croyait définitivement tiré d'affaire? Régis Debray.
Oui, mon cher Alain, d'abord une précision sartrien peut-être, mais à rebours. Oui. Parce que les mots, c'est l'histoire de quelqu'un qui abandonne l'illusion des mots pour la réalité des actes. Moi, je fais l'inverse, c'est-à-dire oui. J'abandonne l'illusion des actes pour la réalité des mots.
Oui, c'est ce que j'ai essayé
tout à fait.
De dire.
Maintenant, vous posez évidemment la question du jour et même la question du lendemain. Oui, c'est vrai, l'histoire nous rattrape par le callback, en quelque sorte. Elle nous éclabousse. Nous l'avions oublié, nous voilà tous désarçonnés. Mais attendez, l'histoire, c'est pas l'événement. C'est vrai que l'épée est l'axe du monde et que la France est faite à coups d'épée, comme disait De Gaulle. Mais l'épée, c'est pas la bombe. Et une meute de voyous n'est pas une armée. Et un halluciné n'est pas un soldat. Autrement dit, oui, nous voilà confrontés à la violence. Mais l'histoire, c'est pas seulement l'événement. L'histoire, c'est la conscience historique. Je dirais même, c'est le sentiment de l'histoire. Et c'est un sentiment qui peut être tantôt poétique ou romanesque, comme il l'est chez Chateaubriand. C'est aussi la conscience d'une histoire, c'est-à-dire qu'un grand dessin, un dessin à long terme est en cours. C'est-à-dire qu'il y a un fondu enchaîné entre un passé et un avenir, il y a une légende derrière nous, il y a une espérance devant nous. C'est cette unité organique, si vous voulez, passé, présent, futur, qui fait la conscience historique. C'est l'idée d'un roman inachevé, si vous voulez. Et alors c'est vrai que la chimère, oui, vous avez raison, elle existe. Moi je dirais même la névrose. Et je pense à ce que disait votre ami Kundera dans La Plaisanterie, quand il décrit au fond ce que c'était que être marxiste à Prague en 48, c'est-à-dire c'était l'idée qu'on prenait le volant puisqu'on avait la science de l'histoire, donc on avait barre sur les autres, on conduisait l'histoire. Et là, il y a peut-être derrière cette chimère une assez vilaine soif de puissance, c'est vrai. Parce qu'on croyait avoir la science. Moi, quand je parle de l'histoire, je ne parle pas de la science de l'histoire, je parle du récit historique, de l'histoire comme drame, un drame qui est écrit, un drame qui est souvent d'ailleurs écrit comme une épopée, une chanson, une liturgie collective. Enfin, moi, je parle de quelque chose de très affectif, si vous voulez, avec une grande part d'irrationnel. Mais je note que tous les hommes de l'histoire commencent par l'imaginaire. Et même quand vous ouvrez les mémoires de guerre de De Gaulle, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez un monsieur qui vous dit « Oui, j'ai une certaine idée de la France, mais c'est l'affectif qui me l'a donné. C'est un sentiment. » Et il évoque même des choses parfaitement hurluberlues ou farfelues, comme Princesse des Contes, la Vierge aux fresques des murs, c'est-à-dire au fond comme des images. Et je crois que l'histoire, c'est d'abord une question d'imaginaire. Et je dirais même que la France réelle, moi la France imaginaire, c'est le camembert. C'est-à-dire, c'est assez peu de choses. Et l'imaginaire historique, j'ai oui l'impression que nous l'avons perdu.
Oui, mais nous y reviendrons à cet imaginaire historique et à la place qu'il peut jouer ou non dans l'engagement politique. Reste qu'on ne peut pas réduire ce qui s'est passé à simplement la brutalité effroyable, la barbarie commise par quelques voyous. Parce que je persiste à penser que l'histoire revient, mais pas telle que précisément nous l'avions rêvé. L'histoire, ce n'est pas la réalisation de l'esprit à travers le récit de ces métamorphoses, ce n'est pas le grand récit palpitant de l'émancipation, c'est tout à fait autre chose. Nous avons beau vivre en démocratie, nous basculons malgré nous dans quelque chose comme une guerre, ce qui veut dire que le totalitarisme de l'histoire est désormais notre lot. Nous n'y échappons pas, qui que nous soyons, quel que soit notre sexe, notre appartenance, la cause que nous défendons ou que nous ne défendons pas. Nous sommes tous également exposés. Donc, il me semble en effet qu'envolée comme promesse, l'histoire ressurgit aujourd'hui comme destin. Et en même temps, pour le dire autrement, l'Europe s'était constituée, vous le dites je crois, sur le rêve de la paix perpétuelle. Ce rêve avait quelque chose d'helvétique, il se fracasse aujourd'hui sur la réalité de l'ennemi. Et toute la question est de savoir comment nommer l'ennemi. Nous savons qu'il ne se réduit pas à quelques voyous. Nous savons aussi qu'il a quelque chose à voir avec l'islam, même si bien sûr ce n'est pas tout l'islam. Et c'est cet ennemi qui, précisément, malgré nous, nous fait rentrer dans l'histoire. Mais je vois une grande difficulté dans la France d'aujourd'hui à discerner l'ami de l'ennemi, ce qui est pourtant l'acte politique fondamental. Régis Debray.
Je vous concède que le grand récit historique auquel vous faites allusion, vous voulez dire le progressisme, est un enfant, un succès donné de la promesse d'Abraham. Millénarisme revu en termes laïques, c'est-à-dire attente de la révélation, progression de l'esprit à travers le temps, l'esprit avec un grand E, la grande journée de l'esprit, d'accord. En ce sens, c'est vrai que j'ai été longtemps un adepte de l'histoire sainte selon Bossuet. Alors, le destin, le morne accent du destin, c'est très païen ça, mais le christianisme a changé cette donne. Il n'y a plus ce morne accent, il y a, comme disait Peggy, des allers-retours, de l'imprévu, du suspense, du pathétique, de l'appel d'une moindre tradition à une plus belle tradition qu'il appelait la Révolution. Donc, c'est pas la ligne droite, l'histoire. Alors maintenant, vous introduisez, et c'est là votre propos, et c'est là où nous allons divorcer. Il faut bien un jour que des amis divorcent quand ils ne sont pas d'accord.
Alors, ça nous est déjà arrivé, mais on s'est remariés, donc voilà, c'est pas grave, on peut divorcer à nouveau.
Non. Moi, je ne veux pas qu'on accorde à Daesh la dignité d'une armée et lui donner l'estime, la considération que mérite un soldat. Je répète que ces affaires de terrorisme sont pour moi des affaires de police, de renseignement, de finance, mais que si l'on rentre dans la logique de la guerre, on est soit inconséquent, soit rhétorique. Et je souhaite d'ailleurs qu'on soit inconséquent. Car si nous avons en face de nous une armée, il faut opposer la nôtre. C'est-à-dire qu'il faut envoyer l'armée française en Syrie. Or, chacun sait qu'il n'en est pas question, que ce serait, je dirais, répondre aux vœux de Daesh, car des soldats occidentaux au sol en Syrie, c'est multiplier Daesh dans ses effectifs par 3 ou 4. Donc, je dis que ne refaisons pas l'erreur qu'a fait Bush, qui est précisément Bush, auquel nous devons d'ailleurs tous les désastres actuels, enfin Bush et tous les néoconservateurs autour de lui. Je crois qu'il ne faut pas, si vous voulez, donner la dignité d'une confrontation historique à ce qui est pour moi, je dirais, une nouvelle forme de violence, très certainement, un acte de terrorisme à l'état pur au sens premier du mot, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une violence extrême contre des civils désarmés. C'est effectivement ce qu'on peut appeler un acte de terreur de masse, mais honnêtement, ne confondons pas cette violence avec l'affrontement de deux volontés. D'abord, nous, comme vous savez, pour mourir, faut avoir une transcendance. Nous n'avons plus de transcendance, c'est-à-dire que personne n'ira mourir en Syrie. Il y a des gens qui meurent en Syrie. Ce sont des gens qui ont une mystique. Ce sont soit les Kurdes qui ont la mystique nationale, ce sont soit les chiites iraniens ou Hezbollah qui ont une autre mystique religieuse, celle de Ali, mais vous ne verrez pas d'Américains, vous ne verrez pas de Français se battre là-bas.
Mais il y a quand même une grande différence entre les attentats du 11 septembre et ce que nous venons de connaître. Les terroristes, pour la plupart d'entre eux, étaient Français ou Belges. Les terroristes du 11 septembre n'étaient pas américains, et d'une part. Et d'autre part, je voudrais vous citer des propos extraordinairement intéressants et qui prennent un relief particulier aujourd'hui, tenus par Julien Freund lors de sa soutenante de thèse sur l'essence du politique. Jean Hippolyte, que vous avez peut-être connu, Régis Debray, était au jury. Il devait être le rapporteur, il n'a pas voulu au vu de la thèse, mais il était au jury. Et il a dit, il a buté sur la catégorie ami-ennemi, définissant le politique, et il a dit, si vous avez vraiment raison, il ne me reste plus qu'à cultiver mon jardin. Parce que, comme le dit Julien Freund, il était hegelien, il croyait à une réconciliation universelle, à la transparence, au moins la transparence finale des consciences. Et voici la réponse de Julien Freund. Écoutez, monsieur Hippolyte, vous pensez que c'est vous qui désignez l'ennemi comme tous les pacifistes. Du moment que nous ne voulons pas d'ennemis, nous n'en aurons pas, raisonnez-vous. Or, c'est l'ennemi qui vous désigne, et s'il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez lui faire les plus belles protestations d'amitié. Du moment qu'il veut que vous soyez l'ennemi, vous l'êtes, et il vous empêchera même de cultiver votre jardin. On en a quand même l'illustration, parce que maintenant, le nouveau slogan, ce n'est pas « Je suis Charlie », c'est « Je suis en terrasse ». Bon, c'est une illustration terrible, et il est difficile de faire de ce djihad un épiphénomène, ou même simplement un retour du bâton, après la politique de Bush ou le colonialisme occidental, parce que, comme l'a écrit Bernard Lewis...
Ou même Carl Schmitt, citez-le, allez,
oui, mais allons-y, là pour le djihad, allons-y, pour, allons-y. Oui, c'est Carl Schmitt, bien sûr, il est influencé par Carl Schmitt quand il dit que la politique au sens fondamental, c'est l'art de discerner l'ami de l'ennemi, bien sûr. Mais là, il s'agit de Bernard Lewis qui rappelle que l'obligation du djihad se fonde sur l'universalité de la révélation musulmane. Cette obligation n'a de limite ni dans le temps ni dans l'espace, elle doit durer jusqu'à ce que le monde entier ait rallié la foi musulmane ou soit soumis à l'autorité de l'État islamique. Entre la maison de l'islam et le reste du monde, il existe un état de guerre moralement nécessaire, juridiquement et religieusement obligatoire, jusqu'au triomphe final et inévitable de l'islam sur l'incroyance. Alors bien sûr, le but de Daesh, c'est de créer un climat de guerre civile, c'est-à-dire de rendre les autochtones, si vous voulez, fous furieux, de les amener à s'en prendre à tous les musulmans, et cela, il faut l'éviter à tout prix. Nombre de musulmans vivent très pacifiquement leur foi. Il n'empêche que le djihadisme doit être pris très au sérieux, et on ne peut pas même le réduire à Daesh, parce que, voilà, j'ai dit, ils étaient français, donc il n'y a pas que Daesh, il y a Molenbeek, il y a le Mirail, il y a tous ces territoires perdus de la nation qui ne cessent d'augmenter en Belgique et en France, et on se demande maintenant comment le reconquérir. C'est un problème d'une ampleur inouïe. Et c'est précisément l'épreuve historique à laquelle, me semble-t-il, nous sommes aujourd'hui assujettis. Nous ne choisissons pas l'époque où nous vivons, ni le type d'histoire dans laquelle nous entrons. Régis Debray.
Oui, alors, c'est vrai qu'il y a un avant et un après Bataclan, pour aller vite. Mais il y a un lien entre l'avant et l'après. J'ai retrouvé, en venant chez vous, une conversation que j'avais avec Bernard Maris. Et je lui disais ceci, excusez-moi, c'est pas bien de se citer soi-même, enfin, c'était l'un des derniers propos, l'un des derniers échanges avec Bernard Maris. Une nation absorbée par l'économie, loin de décourager le fanatisme et la violence, les provoque. Parce qu'un désert moral appelle des consolations du côté de l'extrême. Une société sans rite et sans credo ne propose en guise d'accomplissement que la course au fric et le chacun pour soi, c'est tout cadeau pour l'obscurantisme et le fanatisme. Voilà donc ce que je disais quelques jours avant la mort de Bernard Maris, et Bernard Maris m'approuvait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vrai qu'il y a cette société de l'instant, cette société de l'intérêt, cette société du tout à l'ego, a créé un vide considérable d'ordre simplement, pas seulement messianique, mais peut-être tout simplement spirituel ou à la limite aventureux. C'est dans ce vide-là que s'engouffre l'idéologie islamiste. C'est un fait. Quant à l'ennemi, moi je suis tout prêt à faire un éloge de l'ennemi, d'ailleurs je dois le faire bientôt à l'école de guerre. D'ailleurs, inutile d'aller jusqu'à Carl Schmitt, Hegel a dit tout ce qu'il fallait, on se pose en s'opposant.
Oui, mais Hegel, le maître est l'esclave,
le maître tient à la vie, l'esclave met sa vie en jeu, donc l'esclave devient le maître. Bon, c'est ce qu'il ne faudrait pas qu'il se passe entre l'Occident et l'Orient. Encore faut-il que l'Occident trouve autre chose qu'à se reposer sur ses capacités et commence à évoquer la question de la volonté. Car cette idée que l'on peut vaincre avec des drones et que la confrontation entre le drone et le kamikaze, ça peut nous mener très loin ou très bas. Bon. Donc je suis d'accord que, comme toute agression, cela nous pose la question de qui nous sommes et ce que nous pouvons ou voulons faire. Moi, ce qui me semble le plus grave, si vous voulez, dans tout ça, c'est que c'est notre impuissance à croire en quoi que ce soit. Or, ce sont les croyants qui font les combattants. Et moi, c'est notre vide de croyance qui m'inquiète le plus face à cet événement que nous avons subi. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut de nouveau retrouver une volonté, donc un espoir, donc une foi? Tous les hommes de l'histoire ont eu foi en quelque chose de plus grand qu'eux. Aujourd'hui, nous avons une sorte de béance et j'espère qu'on va pouvoir la combler. Mais on ne la comblera pas par de la rhétorique militaire. Ça, j'en suis convaincu. Cette rhétorique militaire ne peut que, je dirais, alimenter les forces de nos adversaires, car c'est tout ce qu'ils attendent. Donc, essayons de reconstituer une gauche qui reste à gauche, une France capable de parler à tous et de penser par elle-même, une Europe qui ne soit pas un ectoplasme, parce qu'au fond, ce ne sont pas les armées qui gagnent les guerres, ce sont les peuples. Et j'attends la résurrection d'un peuple, le nôtre.
Nous voici à nouveau réconciliés, Régis Debray, le divorce n'aura pas duré très longtemps, car je serai d'accord avec vous, voilà pourquoi, me semble-t-il, après 50 ans de réformes continues qui ont abêti, abîmé et même saccagé l'école, il importe de la reconstruire pour que, en effet, il y ait un peuple digne de ce nom et un peuple qui ait à nouveau une mémoire.
Qui est une histoire, effectivement. Oui, voilà. un peuple qui découvre qu'il a un passé et qu'il a quelques dettes envers ses ancêtres et qu'il a quelques obligations envers ce passé sur lesquelles nous sommes, vous et moi, depuis longtemps d'accord.
Mais en même temps, il me semble toujours que, même dans votre vision désenchantée de l'histoire, vous pensez que c'est constamment l'Occident qui mène le bal, et donc tout ce qui arrive de problématique est une réaction. Réaction au vide spirituel de l'Occident, réaction à sa politique impérialiste.
À la politique impériale insensée à sa politique que la France a suivie benoîtement, sauf un court moment.
Ne peut-on pas, Régis Debray, quand même considérer les islamistes, non pas comme des conséquences, mais comme des sujets historiques, comme des acteurs historiques à part entière. Et là, je vais vous taquiner un tout petit peu.
Oui, ben j'espère bien.
Une toute petite taquinerie.
À charge de revanche.
Oui, ben, je sais bien, et vous aurez le dernier mot. Parce que l'un des écrivains, l'un des intellectuels qui nous alerte constamment sur cette réalité, sur cette action de l'islamisme et sur le danger qu'il représente dans nos sociétés elles-mêmes, donc en France, et pas seulement à Raqqa, si vous voulez, c'est Boualem Sansal. L'écrivain Boualem Sansal, il a été éjecté de l'Aïch du Goncourt, peut-être pour des raisons littéraires. Il n'empêche que, d'après ce que j'ai lu dans l'Express, vous avez dit cette phrase, c'est Marianne Payot qui la cite, qui la relève, lorsque vous étiez avec les autres jurés à Tunis. Le prix du courage en Algérie peut-être, pour Boualem Sansal, mais celui de la conformité en France sûrement, conformité à une idéologie qui, au fond, aime à taper sur la religion des faibles, toujours dans cette idée que c'est l'Occident qui mène le bal et que les autres, ce sont en fait simplement les opprimés, amenés à réagir comme ils peuvent à une histoire dont ils ne sont pas véritablement les sujets. Est-ce qu'il ne faudrait pas réviser cette idée-là, justement avec ce concept d'ennemi ?
Un homme comme vous qui croit dans ce qui est écrit dans les journaux, ça me désarçonne toujours.
Mais c'était des guillemets.
Monsieur Boualem Sansal.
C'est pour ça que je me suis permis de le citer.
Oui, oui. Monsieur Boualem Sansal a été l'objet de jugements littéraires, car je n'ai jamais mêlé le politique et encore moins l'idéologie à la littérature. Non. Ah bon, écoutez, et si on revenait au fait ?
D'accord.
Parce que j'ai l'impression que Daesh vous obsède avec quelques raisons.
Molenbeek autant. Hein. Molenbeek m'obsède autant que Daesh. Le Mirail m'obsède autant que Daesh. Les territoires perdus de la nation m'obsèdent autant que Daesh.
Oui, vous avez raison, parce qu'au fond, c'est ça le problème.
Voilà.
Parce que Daesh contre l'Occident, ça tient pas la route, car Daesh a frappé les Russes, Daesh a frappé le Liban Sud, qui ne sont pas des territoires occidentaux. Daesh frappe ses ennemis selon les règles de la guerre asymétrique. Quand vous n'avez pas d'avion et quand vous n'avez pas de bateau, vous avez des couteaux ou vous avez du TNT. Bon. Mais est-ce qu'on s'écarte pas un peu du sujet ? Moi, j'ai écrit un livre pour... D'abord, c'est pas un essai philosophique, c'est une œuvre d'imagination. Je raconte des choses totalement farfelues comme...
Oui, une visite au général de Gaulle en 1970.
Une visite au général de Gaulle.
Vous auriez été livre mort.
Qui n'est qu'un cauchemar ou un rêve récurrent.
Oui.
Je voulais dire qu'à un moment donné, j'ai voulu participer à quelque chose qui transforme l'histoire du monde. Et à mon sens, c'est ça. Je dirais, c'est peut-être ce que vous appelez une chimère, c'est peut-être ce que vous appelez une simplement une vanité, un goût du théâtre, peut-être un orgueil excessif. Mais enfin, le sentiment qu'il faut pas rater le train, le sentiment qu'il y a comme une sorte de flot irréversible et qu'il ne faut pas, si j'ose dire, manquer le coche. Autrement dit, qu'on doit monter sur le pont du bateau pour affronter les tempêtes. Et il me semblait qu'en Europe, c'était la bonasse, c'était le calme plat.
C'est fini, ça.
C'était donc ce qu'on appelait le tiers-mondisme. C'est fini. J'en suis pas sûr, car encore faudrait-il que l'Europe ait une certaine indépendance et que l'Europe puisse réfléchir à long terme. Moi, ce qui me frappe le plus, si vous voulez, aujourd'hui, c'est l'absence de dessin à long terme. C'est-à-dire que mon pays, les gouvernants de mon pays, réagissent au coup par coup, réagissent à l'émotion, ne développent pas une vision du monde, parce qu'ils n'en ont plus, ils n'ont qu'une vision de l'économie et de la comptabilité. Par exemple, ils veulent mener une guerre sans nous dire quel est le Moyen-Orient qu'ils conçoivent et quel est les intérêts, la place de la France vis-à-vis de ce Moyen-Orient, c'est-à-dire quelle est la structure politique, est-ce qu'on va garder les frontières, est-ce qu'il y a vraiment une lutte de civilisation, qu'est-ce qu'on va faire des chrétiens d'Orient, quelle place pour eux, bref, quel type de coopération peut-on avoir avec le monde arabe et à quelles conditions, quelle place tenir dans la grande guerre entre chiites et sunnites, qui est tout de même au démarrage de tout. Bref, je ne vois que du court terme, je ne vois que au fond de l'opportunisme, bon ou mauvais, si vous voulez. Et c'est ça ce que j'appelle la perte du sens de l'histoire. C'est l'impossibilité de faire du fondu enchaîné. Entre ce qui était hier, car c'est une guerre de 1000 ans tout de même, celle-là, entre l'Orient et l'Occident, pour reprendre vos termes, et comment on va articuler notre passé à quel avenir, voilà. Et c'est ça ce qui m'angoisse, et c'est en quoi je dis que l'histoire, ça ne se réduit pas à l'événement. D'ailleurs, vous n'avez pas évoqué la fin de l'histoire chez Hegel, mais la fin de l'histoire, c'est pas la fin des événements, c'est le moment où l'humanité découvre quelle est sa propre fin,
oui.
Et en se donnant un certain temps pour trouver les structures socio-économiques qui peuvent réaliser cette fin, à savoir un État rationnel et une société civile subordonnée mais libre. Voilà. Mais donc, c'est pas parce qu'une bombe explose, c'est pas parce que nous avons 100 morts ou demain 1000 morts que l'histoire nous revient. Le tragique peut-être, dans la mesure où le tragique, c'est l'imprévu, c'est l'injuste, c'est-à-dire... vous avez beau être un type bien, vous sautez sur une bombe, c'est tragique. Mais c'est pas l'histoire, ça.
Sauf que, Régis Debray, vous dites c'est un événement, c'est pas l'histoire, et en même temps, vous dites c'est une affaire de 1000 ans. Et dans Madame H, j'ai lu une phrase où vous reprenez à votre compte le concept de choc des civilisations, en disant qu'il ne vous effraie pas.
Mais non, pas du tout.
Si nous vivons quelque chose de cet ordre, alors il faut bien reconnaître que c'est l'histoire. Et là, votre autre reproche aux hommes politiques se justifie amplement. Ils doivent retrouver le sens de la profondeur historique. Mais il me semble que s'ils l'ont perdu, c'est du fait d'une mémoire bloquée sur Auschwitz. Hitler avait fait de l'autre, l'autre imperceptiblement autre, le juif, l'ennemi absolu. Pour ne pas récidiver, aujourd'hui, on a tendance à voir de l'autre là où il y a l'ennemi. Et donc à substituer l'opposition du même et de l'autre à l'opposition de l'ami et de l'ennemi. Et donc voilà, et c'est toujours la question de l'exclusion, de la discrimination, de l'islamophobie, etc. Et dès lors même qu'on utilise ce concept à titre d'hypothèse de choc des civilisations, alors tout le monde se mobilise pour dire c'est une forme de dénigrement de l'autre, d'hostilité à l'autre, etc. Mais donc il faudrait que la mémoire se débloque et retrouve le temps long, précisément pour être à même peut-être de prendre acte de ce qui nous arrive.
Oui, on a remplacé l'histoire par la morale. Il y a les bons, il y a les méchants. Et surtout, on a remplacé, je dirais, le politique par l'économique et le financier. On a fait Sciences Po une business school, où, comme vous savez, seulement pour les paléontologues, l'histoire commence en 1945. Il y a des fous qui remontent jusqu'à 1914. Comment voulez-vous que ces gens-là, puisque cette classe dirigeante sort de cette matrice-là, qui est une matrice de déculturation, comment voulez-vous que ces gens-là affrontent les affaires internationales d'aujourd'hui, quand précisément la caractéristique de notre postmodernité, c'est que tout l'archaïque remonte. Enfin, tous les soubassements reviennent à la surface. Le passé devient présent, n'est-ce pas? Et ces gens n'ont aucune notion de ce passé et des contraintes qui l'impliquent. Or, rien de ce qui est ne cesse d'être ce qui fut, et rien de ce qui fut ne peut disparaître complètement. Il y a des retours. Et il y a des retours de flamme, il y a des retours d'inconscient, il y a des retours d'arriéré, et je crois que notre postmodernité sera archaïque. Et dans ces archaïsmes, il y a, oui, les soubassements religieux, mais aussi ethniques, linguistiques, régionaux. Bref, on a beau détester avec raison la terre et le sang, ça remonte, comme on dit, hein, ça remonte. Et il faut veiller à ce que ça ne remonte pas, il faut veiller à ce que cette barbarie ne prenne pas le dessus. C'est au fond la dernière raison pour moi de m'engager quelque part ou dans quelque chose. C'est que j'ai vraiment peur, je dirais, d'une fin de civilisation, qui n'est pas la fin de toute civilisation, mais j'ai vraiment peur d'un retour de barbarie dans la mesure où toutes les couches les plus récentes, les plus modernes, c'est-à-dire la nation civique et non ethnique que vous aimez, vous et moi, c'est-à-dire le politique, disons les couches supérieures de l'être ensemble, j'ai peur que tout ça ne vole en éclats et que ne remontent les tribus, les passions, les fantasmes, les chimères, voilà. Donc, s'il y a encore une raison, je dirais, de faire quelque chose, c'est pour empêcher ce pire-là. Maintenant, c'est vrai que je ne crois plus dans la révélation finale qui nous fera déboucher un jour sur la justice, l'équité et le bonheur. Alors, le bonheur, c'est idée pour les cons, disait De Gaulle.
Je ne connaissais pas la phrase.
Ben si, il n'y a que des moments de bonheur comme il n'y a que des moments de fraternité. Oui. Voilà. Et il n'y a que des moments de grandeur aussi. Et il n'est pas exclu que la grandeur revienne. Pas demain matin, mais pourquoi ? La France est riche de surprises. Je lisais Barrès, excusez-moi, ça ne va pas...
Ça ne va pas arranger vos affaires.
Ça ne m'arrangera pas mes affaires.
Je vous laisse la responsabilité.
Et Barrès disait, la France est morte en 1789. Mon ami Daniel Cordier m'a souvent dit, la France est morte le 17 juin 1940.
Daniel Cordier, dont il ne faut pas oublier qu'il était maurrassien au moment de s'engager dans la résistance.
Oui,
mais évidemment, d'autres maurrassiens l'ont fait comme lui. Donc, oui, c'est pour essayer c'est justement de complexifier le tableau.
Non, mais même Alfred de Musset pensait qu'après Napoléon, et en débouchant sur Louis XVIII, la France était morte, et quand Félix Gouin a succédé à De Gaulle en 1947, on s'est dit que c'était foutu. Donc je n'exclus pas des résurgences, sinon des résurrections. Mais je pense aujourd'hui que lutter pour l'histoire, et pas seulement pour la mémoire, devient une tâche importante et que notre classe dirigeante n'est pas à même de le faire.
Donc il s'agit de lutter pour l'histoire dont nous sommes les héritiers. Il ne s'agit plus, dites-vous, de se placer dans la perspective de la promesse, de l'espérance, du salut.
D'un jugement dernier.
Du jugement dernier. Mais alors, justement, revenons-en à cette espérance qui a été la vôtre. Parce que ce que vous dites, d'ailleurs, avec beaucoup d'honnêteté, c'est que, chez vous, le souci du monde, la révolte contre l'injustice, n'était pas seul en cause dans votre engagement. Il y avait un désir fantasmatique de jouer votre rôle est plutôt un beau rôle dans la pièce. Et je voudrais citer un passage de Louis Soineau-Seigneur qui contient un peu in nucleo la réflexion de Madame Mache. Et un passage qui m'avait beaucoup frappé. Vous dites, favori des cataclysmes, nos aînés tenaient la corde. J'appartiens à une génération de série B, condamnée par un blanc de l'histoire au pastiche des destins hors série qui nous ont précédés, raflant les premiers choix et nous laissant les doublures, sous Blum, sous De Gaulle, sous Malraux, sous Bernanos, sous Camus, sous n'importe qui. La génération qui eut 20 ans en 1930 ou 1940 nous a fixé les clés et les motifs, la suivante, la mienne, plaque des accords comme un ours sur la partition des aînés. Nous gérons maladroitement un portefeuille de classiques inaccessibles. Et là, on a, et je pense à ce que j'ai...
Vous mettez le doigt sur un point sensible.
J'ai essayé d'écrire dans Le Juif imaginaire, parce que, à ma façon, je m'identifiais aux rescapés, j'abolissais la distance qu'il y avait entre eux et moi, et je me racontais, en quelque sorte, le roman de l'Étoile jaune, alors que je vivais, précisément par la proximité de la catastrophe, dans un moment, dans une période prosaïque et protégée. Donc je vois bien ce que vous dites, mais on a envie de penser, ne peut-il pas y avoir d'autres motivations d'entrer en politique et de participer à l'histoire que celle-ci, qui est malgré tout d'ordre fantasmatique, comme je le disais.
Oui, on peut même pousser plus loin. Elle peut être même d'ordre narcissique. Les hommes de l'histoire ne sont pas des hommes de théâtre. Mais il y a une part de théâtralité, c'est certain. Et au fond, ce que vous venez de dire est un peu... Je rougis un peu à l'entendre. Ça veut dire, je veux pas être un acteur de série B.
Oui, c'est ça.
Je veux être sur la scène. Et pourtant, non, parce que je n'ai pas ce tempérament. Je suis plutôt un homme de coulisses, de préparatifs, etc. Mais il est vrai qu'il y a... C'est le côté un peu, je dirais, déplaisant de... C'est la recherche de figuration qui met déplaisante chez les autres, mais dont je crains que je n'en ai été parfois victime. Donc c'est vrai, tout n'est pas sain dans le désir d'histoire.
Oui.
Je le reconnais bien volontiers. Mais il y a toujours l'idée, je dirais même que, si vous voulez, le désir d'histoire est un désir souffrant. C'est une dimension souffrante de la sensibilité. C'est l'idée qu'il y a une mémoire anxieuse, l'idée d'une faillite, l'idée d'un manque. On manque à nos aînés. On est en dette et on paye pas la dette, c'est-à-dire qu'on est au fond, on n'est pas au niveau. Mais pour avoir le sentiment de n'être pas au niveau, faut encore savoir ce qu'il y avait avant. Si vous voulez, bon, sans César, Napoléon n'aurait été ni consul ni empereur, mais sans Gracchus Babeuf, Robespierre n'aurait pas fait la Révolution, et sans la Commune de Paris, Lénine n'aurait pas fait Octobre. Je veux dire que tous les grands hommes de l'histoire ont un rétroviseur, et c'est parce qu'ils ont un rétroviseur qu'ils vont de l'avant. Pourquoi ? Pour être à la hauteur.
Pas seulement Robespierre qui a fait la Révolution.
Oui, non, mais on peut citer, disons,
citer d'autres.
Tout révolutionnaire est,
oui.
Rend allégeance à ce qui n'est plus, à ce qu'il, je dirais, à ce qu'il enjolive, mais à ce qui le pousse en avant, car comme vous savez, la mélancolie est tout de même un grand coup de pied au cul, contrairement à ce que les gens croient. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'on fait pas ce qu'il faut, qu'on est déficitaire par rapport à une certaine lignée, par rapport à un héritage, et qu'il faut, je dirais, reprendre quelque chose d'interrompu trop tôt. Voilà. C'est en sens que, bah, vous et moi, nous aimons bien Peggy. Peggy disait la République, virgule, le Royaume de France.
Ah oui.
Bon. C'est-à-dire.
La République, une et indivisible, est notre Royaume de France.
Et c'est-à-dire qu'il y a, au fond, nous vivons au temps de la discontinuité, de l'instant, du news, de l'étonnement, mais nous ne vivons plus autant, je dirais, de la lente digestion des légendes qui crée tout d'un coup des percées et qui permet à des hommes de se dépasser eux-mêmes. Non, le contexte médiatique n'est pas favorable. Il est favorable à l'étonnement plus qu'à la fidélité. Il est favorable au réactif plus qu'à l'initiative, plus qu'à l'action. Donc, je dirais, si vous voulez, il suffit pas, je dirais, de connaître une violence extrême pour rentrer dans l'histoire. Encore faut-il savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Il faut aussi garder par-devers soi le sentiment d'une filiation et donc d'une obligation et ne pas, je dirais... se regarder toujours le nombril dans l'instant X. Voilà. Donc, c'est vrai que l'histoire nous revient comme ça, nous éclabousse, nous rattrape, et qu'on est désarçonné. Mais il va falloir travailler cette sensation. Il va falloir, je dirais, j'ai presque envie de vous dire, tout commence.
Tout commence, oui.
Tout commence.
Tout commence. Ça, je serais d'accord avec vous.
La façon dont on peut traiter ce qui s'est passé, ça, c'est là où on va voir qui est qui. Et je dirais que jusqu'à présent, je trouve que les Français se sont très bien tenus.
Oui,
voilà.
Oui, c'est vrai. C'est
donc,
vrai.
Ne désespérons pas. Mais cette, disons que l'histoire, c'est pas cadeau. C'est jamais cadeau.
C'est hein. Jamais cadeau.
C'est,
oui.
c'est un travail. C'est parfois un sacrifice. Ça a un prix, mais je dirais que c'est pas mauvais pour la dignité de tous.
Alors, quand vous dites l'histoire, c'est pas cadeau, cela m'évoque une réflexion de Saul Bellow dans un article intitulé « Mon Paris », il s'interroge sur le sens de l'expression « wie Gott in Frankreich », comme Dieu en France. C'est le mot qu'employaient les Juifs d'Europe centrale pour résumer le parfait bonheur. Et il dit qu'il croit pouvoir maintenant interpréter l'expression « Dieu serait parfaitement heureux en France parce qu'il n'y serait pas dérangé par les prières, rites, bénédictions et demandes d'interprétation de délicates questions diététiques. Paris, dit-il, est la ville sainte de la laïcité. Environné d'incroyants, lui aussi pourrait se détendre le soir venu, tout comme des milliers de Parisiens dans leur café préféré. Peu de choses sont plus agréables, plus civilisées qu'une terrasse tranquille au crépuscule. » Et l'histoire, c'est pas cadeau. Il me semble que les terroristes ont mis provisoirement fin au bonheur de Dieu, quand même.
Oui, l'histoire n'est pas cadeau, mais c'est pas non plus funèbre ni funéraire. Je crois qu'il y a même une obligation de rire et de sourire quand on est laïque. Mais je ne connaissais pas cette citation de Saül Bellow, que j'ai bien envie de mettre en épigraphe sur un livre que je prépare avec un ami, qui est un guide pratique de la laïcité, c'est-à-dire comment vivre quotidiennement sa laïcité.
Je vous donnerai
la référence. Et c'est vrai que la boîte de nuit et la terrasse de restaurant font partie de notre civilité, car au fond, on parle beaucoup de civilisation, commençons par la civilité.
Mais alors, d'autre part, je voudrais vous citer une autre phrase qui me semble très bien illustrer le livre que vous venez d'écrire, Madame H., Régis Debray. Je l'ai trouvé dans l'ouvrage de Karl Levitt, Histoire et salut, les présupposés théologiques de la philosophie de l'histoire. C'est une phrase de Léon Blois. L'humanité commença à souffrir dans l'espérance, et c'est pourquoi nous parlons d'une ère chrétienne. Mais vous dites, vous, et c'est là-dessus, c'est ça que je voudrais vous amener à commenter, que cette ère chrétienne s'est brutalement interrompue en France en 1974. Donc c'est pas simplement une date historique,
c'est une boutade.
Date qui fait époque, presque historiale. Et voilà, que s'est-il donc passé à ce moment-là pour que nous changions sans nous en apercevoir d'air?
L'épanouissement personnel a remplacé l'accomplissement collectif. C'est comme ça que je définirais, si vous voulez, cette rupture. Je le dis sur le ton, un ton mi-plaisant, c'est toujours difficile de savoir quand finit une ère chrétienne. Après tout, l'ère chrétienne, il a fallu 4 ou 5 siècles pour découvrir qu'elle avait fini depuis 4 ou 5 siècles. Donc on n'est jamais contemporain de son présent. Mais c'est vrai, il y avait pour moi deux choses, si vous voulez, dans, je dirais, les mœurs, la mentalité du chrétien de souche, pas nécessairement de croyance, et j'allais même dire du judéo-chrétien, et pas seulement pour vous faire plaisir. Il y a deux choses. Un, le salut est collectif. On est lié à une appartenance. Et deux, avant d'avoir une couronne en or, il faut avoir la couronne d'épines. C'est-à-dire que il y a le passage par le négatif. Il y a 40 jours au désert. Il y a la soif et la faim, l'épreuve. Et tout d'un coup, l'idéologie de la réussite immédiate et l'idéologie du chacun pour soi et Dieu pour personne, c'est-à-dire au fond, chacun pour soi, c'est la logique du naufrage. Bon. Et il me semble, là, si vous voulez, qu'il y a eu... Alors, j'accroche ça à l'élection de Giscard d'Estaing, qui est un homme tout à fait respectable et qui a d'ailleurs fait d'excellentes choses du côté sociétal, comme on dit. Nous sommes d'accord. Mais il me semble que là, les notions, même les notions, comment dirais-je, de service public, d'État, de collectivité, même un syndicat, un parti, etc., tout ça, c'est dissous au bénéfice d'un tout à l'ego et donc d'une guerre de tous contre tous, comme sur un bateau qui naufrage. Alors voilà ce que je dis, c'est que au fond, quand on est chrétien, la souffrance a une valeur. On peut être doloriste, il est vrai, mais la souffrance et les gens qui souffrent sont respectables, y compris les paumés, les pauvres. les déshérités, comme on dit. Et puis, comment dirais-je, on ne peut pas se mettre à part de la cité, on ne peut pas se mettre à part des gens qui vous entourent. Voilà les deux piliers, pour aller vite, qui m'ont amené à dire que quelque chose s'est brisé en 74. Vous allez me dire, est-ce que ça s'est réparé en 81? Il y a eu un projet, mais ça n'a pas marché.
Oui. Et alors, une autre phrase que je vous demanderai de commenter, je trouve que c'est la plus profonde de ce livre, celle qui pourrait fournir un très beau sujet de réflexion aux étudiants en philosophie, et pas seulement. Vous dites, page 140, « La question, au fond, est de savoir si un occidental peut briser le moule chrétien sans devenir un salaud. »
Oui, ça, je pense que c'est le grand défi aujourd'hui, parce que où est le surmoi ? Et si tout se réduit à l'intérêt et à la satisfaction immédiate, pourquoi ne pas écraser son voisin ? Je crains le retour de la loi du plus fort, ou du plus nombreux d'ailleurs. Donc je crains effectivement la perte de ce corset, au fond de ce que Freud appelait la répression, tout simplement, c'est-à-dire la répression du pulsionnel, la répression de la méchanceté, la répression du nombrilisme. Et donc, c'est la grande question. Est-ce qu'on peut inventer une civilisation post-chrétienne, nous, occidentaux? C'est pas le problème des bouddhistes, hein, c'est pas le problème des Chinois qui ont Confucius. Mais nous, c'est notre matrice, c'est notre matrice. Et quand ce moule se brise, est-ce qu'on peut déboucher sur autre chose que de la jungle, avec de temps en temps des moments d'émotion, de compassion, avec des discours tout à fait, je dirais, lénitifs et démagogiques. Mais voilà, je n'ai pas de réponse à cette question, mais ceux qui seront dans ce studio dans 50 ans ou 100 ans auront peut-être une vue plus claire. Nous, nous sommes, disons, en ballottage.
Oui, ne parlez pas de ça. C'est vrai, parce qu'on dit l'histoire, c'est l'avenir, ce vécu sous
non,
la forme de l'attente, de l'espérance,
et l'avenir,
c'est la mort.
Je dis, donc, oui, non, mais je dis qu'il est... Non, c'est la transmission aussi.
Oui, bien sûr. Hein,
bon, mais... on échappe à la mort par la transmission. Pas par la communication, mais par la transmission. Et donc, il est trop tôt pour répondre à cette question, mais ça me semble aujourd'hui la question. Moi, ce qui m'angoisse, pour tout vous dire, au fond, c'est pas seulement la disparition de la croyance, parce qu'au fond, de croire en rien, c'est ce qu'on appelle le nihilisme, mais c'est aussi la disparition du politique.
Ah oui.
C'est ça qui m'angoisse. Le politique, qui est même le lieu du rationnel, le lieu du long terme, le lieu du général et non du particulier. Le politique a déjà une petite transcendance en soi-même, n'est-ce pas ? Oui. Et cet écroulement du politique et cette montée en puissance de la société civile qui, chez nous, est la plus incivile qui soit, ça m'angoisse. Voilà. Mais enfin, oui. Ça ne nous empêchera pas d'aller prendre une bière à la terrasse
une
de
bière,
café.
Une bière sur une terrasse, en effet. Je suis sur une terrasse, notre nouveau slogan. Un dernier mot quand même, parce que briser le moule chrétien, ça a été malgré tout l'ambition de certains de ces révolutionnaires que vous citiez tout à l'heure. Après tout, il y a un basculement quand on a répudié le dogme du péché originel pour le principe de la bonté originelle de l'homme, ce qui d'ailleurs offrait à la politique un champ beaucoup plus vaste, non pas simplement assurer la concorde civile et la sécurité extérieure, mais transformer radicalement la condition humaine pour éliminer le mal, tout cela, bon bref. Mais en tout cas, une certaine idée de la sécularisation, c'était la rupture avec le christianisme. On peut dire que il n'y a pas eu rupture, mais au contraire, recyclage. La question s'est posée à un moment donné, et beaucoup de révolutionnaires ont pensé en termes de rupture. Ils ont brisé le moule chrétien pour faire émerger un homme vraiment bon. Régis Debray.
Oui, vous savez, ces philosophies de l'histoire, pour moi, ce sont des hérésies chrétiennes qui ont mal tourné. Je n'aime pas la notion de péché, j'aime bien la notion de finitude. Pour moi, il n'y a pas de péché, mais il faut se rappeler que nous ne sommes pas des êtres infinis, mais des êtres mortels. Nous sommes dans un lieu, et pas n'importe où. Nous avons une histoire et pas n'importe laquelle. Bref, nous ne sommes pas Dieu, ni même demi-Dieu. On fait ce qu'on peut, quoi. Mais on fait ce qu'on peut, un peu plus que ça tout de même. Parce que je crois qu'on ne peut pas être ensemble si on n'a pas quelque chose qui nous dépasse. C'est en quoi la perte de la croyance m'inquiète, parce que c'est pour moi la fragmentation et, je dirais, la dissolution et donc la barbarie. Mais honnêtement, le progressisme est un christianisme laïque.
Contrairement à ce que pouvaient penser certains progressistes, c'est ça?
Contrairement à ce que pouvaient penser certains progressistes. Vous savez, on parlait de Robespierre tout à l'heure, il a tout de même été chez les jésuites, et surtout, on lui a donné des cours d'histoire. Je crois qu'il est important de donner aux jeunes gens des cours d'histoire. C'est à partir du moment, 1769 je crois, où l'histoire est devenue une discipline enseignée dans les écoles, qu'on a commencé à former, pas seulement Robespierre, mais Rabaud, Saint-Étienne et un certain nombre de Jacobins, de Montagnards, de Girondins. Bref, y a tout de même un rapport entre l'histoire comme science et l'histoire comme soif, l'histoire comme désir. C'est-à-dire, au fond, désir de mettre la main à la pâte pour quelque chose de plus grande ampleur que nous-mêmes.
Très bien, Régis Debray, merci beaucoup. Alors, si je pense à la Révolution...
Que vous n'aimez pas beaucoup.
J'aime
beaucoup. À chaque fois que je parle de Robespierre, je vous sens,
je vous sens un
peu crispé.
Je pense plutôt aux victimes de la Terreur.
Mais vous avez raison.
Ces acteurs principaux. Et je suis, si vous voulez, j'ai une dette envers l'œuvre de Condorcet, par exemple.
Pensons à Carnot et à Condorcet, voilà. C'est-à-dire aux deux piliers de la République, l'armée et l'école.
Très bien. Ben voilà la plus belle des conclusions. Merci Régis Debray. Je rappelle le titre de votre livre, Madame H. Il est publié aux éditions Gallimard. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Poésie de la prose française. Mes invités seront Suzanne Julliard et Fabrice Lucchini. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, enregistrée mardi 17 novembre, à l'occasion des 30 ans de l'émission, mais cet enregistrement n'a pas pu se faire en public pour des raisons que l'on peut comprendre aisément. Elle s'est faite, cette émission, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et Didier Lagarde, à la technique aujourd'hui, Emmanuel Morse d'Incan, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.